L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. On retrouve, comme en 2021, l'association Bretagne Vivante et là, c'est une émission quasiment rituelle. Chaque année, on y revient parce qu'on aime bien cette opération. C'est le comptage des oiseaux des jardins qui a lieu chaque année, donc le dernier week-end de janvier, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, et c'est quand même mieux quand il fait beau. Cette opération est réalisée partout en France par la Ligue de protection des oiseaux, mais chez nous, donc c'est Bretagne Vivante et le GEOCA, une autre association spécialisée en ornithologie des Côtes d'Armor. Celle qui vient souvent nous parler de l'opération, c'est Barbara Dem, chargée de communication de Bretagne Vivante. Et avec elle, il y a aussi Lucas Gauvin, qui est volontaire en service civique et passionné d'animaux en tout genre. Bonjour à vous deux.
Bonjour Véronique.
Bonjour Véronique.
On va commencer par rappeler tout simplement le principe de cette opération qui a plus de 10 ans, je crois, maintenant.
Exactement, ça fait près de 12 ans qu'on invite les citoyens à compter les oiseaux des jardins le dernier week-end de janvier. C'est tout simple, hein, c'est vraiment prendre une heure et observer les oiseaux, les compter, les identifier et nous transmettre les données.
Et pourquoi c'est intéressant à cette période de l'année? On se dit, tiens, ça ne va pas être foisonnant d'oiseaux.
Alors si, justement, il y a plein d'oiseaux au mois de janvier. Et l'un des avantages de ce mois d'hiver, c'est que c'est plus facile à voir les oiseaux puisqu'il y a moins d'arbres sur les feuilles, tout simplement. Donc c'est plus facile de les observer. Souvent, ils se cachent, ils sont pas, et puis ils ne sont pas très gros, les oiseaux des jardins. Donc quand il y a beaucoup de feuilles, on ne les voit pas. Et puis il fallait choisir un mois en fait où on invite tous les citoyens à compter à une date et à une c'est un protocole, il fallait trouver une date, donc le mois de janvier voilà, on l'a trouvé dernier week-end de janvier depuis 12 ans.
Ouais, voilà, il fallait que ça soit quand même sur une période définie, délimitée. Donc une heure pendant le week-end, donc samedi là ou dimanche, hein, c'est ça, on choisit en gros son créneau, hein.
Ouais, tout à fait.
C'est de la science participative, donc protocole et en fait, il y a des fiches d'identification, enfin il y a quelques outils qu'on peut utiliser.
Les outils servent surtout à vous aider, en fait, à aider les citoyens à reconnaître les oiseaux, parce qu'on n'est pas tous ornitho, on n'a pas tous l'œil aguerri pour reconnaître une petite mésange ou un petit pinson.
Oh si, encore mésange, ça va.
Oh oui, c'est vrai. Et encore, les erreurs sont faciles. Mais du coup, effectivement, Bretagne Vivante met à la disposition de tous, sur son site internet, bretagne-vivante.org, une petite plaquette qui aide à l'identification des oiseaux. Sur cette plaquette, on retrouvera aussi une petite feuille de comptage. Voilà, on le remplit pendant l'heure où on compte les oiseaux. Et puis, on transmet ces données en ligne. Donc, il s'agira juste de nous redonner les informations que vous avez mises sur votre bout de papier. Sur internet.
On peut éventuellement l'envoyer, cette plaquette, une fois qu'on l'a remplie, si on n'a pas d'internet.
Absolument. Tout est noté sur le site de Bretagne Vivante. Pour ceux qui préfèrent, ils peuvent nous l'envoyer par la poste.
Combien est-ce qu'il y a de participants? Parce que je crois que chaque année, il y en a plus. Enfin, c'est Bretagne et Pays de Loire, en fait.
C'est ça. Alors, sur Loire-Atlantique. Donc, la Bretagne historique, comme on dit, il y a près de 6 000 participants et on couvre presque 80% des communes du territoire. Donc on se rend compte que là, la force de la science participative, c'est vraiment d'impliquer un grand nombre de gens sur le même jour, sur les mêmes protocoles, ce qui permet de recenser des données en grand nombre, ce qui n'est pas possible pour aux scientifiques de le faire, parce qu'on n'est pas assez, en fait, il n'y a pas assez de gens, et puis ça coûte très cher. Là, c'est vraiment un acte citoyen que les gens veulent bien faire. Et puis, ça nous, voilà, donc c'est une source de données. Ces données, on les analyse pour comprendre un peu comment se portent les oiseaux, les espèces communes qu'on voit souvent, pour savoir est-ce qu'il y a plus ou moins d'oiseaux sur telle période, est-ce que quel oiseau ces populations descendent, augmentent ou pas. Et puis comme toute opération de science participative, il va aussi s'agir de sensibiliser les citoyens à se rendre compte un peu que dans son jardin il y a plein de vie, la vie c'est aussi les oiseaux, et qu'on peut en prendre soin, les compter, les identifier, connaître leur nom, et c'est vachement plus sympa quand même.
C'est vrai. Enfin, franchement, moi, pour participer à l'opération chaque année, je trouve ça vraiment, vraiment chouette comme opération. C'est sur les 12 ans, donc, qu'est-ce qu'on a pu observer, en gros?
Alors, ce qu'on peut observer, c'est que de manière générale, le rouge-gorge et les mésanges bleus et charbonnières sont des oiseaux qu'on continue à voir souvent. C'est souvent le trio de tête des espèces les plus fréquentes dans les jardins. En termes d'abondance, pareil, on est rarement surpris sur le nombre. Donc l'abondance, on va vraiment comprendre les oiseaux qu'on voit en plus grand nombre. Donc souvent, ça nous donne une indication sur les oiseaux qui ont un comportement grégaire, donc qui restent en groupe. C'est le cas du moineau, c'est le cas de l'étourneau. Hein, c'est rare de voir un seul moineau ou un seul étourneau. En général, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est plus ou moins stable, mais ce que ça nous donne aussi comme information, c'est qu'on se rend compte que certains oiseaux, on les voit plus du tout, ou on les voit beaucoup moins. C'est le cas, par exemple, du chardonneret élégant, où ces populations sont vraiment se dégradent et on en voit de moins en moins. C'est pareil pour le bouvreuil pivoine. Avant, c'était un joli oiseau rond, rouge, très joli. Et malheureusement, on en voit de moins en moins. Et ça, pour le coup, on s'aperçoit qu'on a moins de données sur ces espèces-là.
Et on sait pourquoi ? On a une idée ?
On a une idée. Bon, malheureusement, c'est un peu toujours les mêmes choses. Hein. C'est l'artificialisation des sols, la baisse. Il y a moins d'habitat pour ces oiseaux, donc ils trouvent moins d'espace pour nicher ou pour vivre, tout simplement. Donc forcément, ils disparaissent. Les insectes aussi disparaissent, hein, agriculture intensive. Enfin bon, voilà, on connaît les grandes causes. Ah bon, ça, c'est des choses où le citoyen a peut-être un peu plus de mal à agir. Il y a des petits gestes quand même que nous, on préconise. Typiquement, ceux qui ont un chat, faire attention au chat, parce que c'est quand même un prédateur des oiseaux. Donc, il y a des petits trucs et astuces pour éviter que le chat s'en prenne aux oiseaux.
Et il y a énormément de chats en France. Enfin, je crois qu'on est, en proportion par rapport au nombre d'habitants, je crois qu'on est le deuxième pays au monde à avoir des chats.
C'est ça. Donc, mine de rien, faut pas oublier que c'est pas que un gros matou de salon, c'est aussi un prédateur d'oiseaux. Il y a une autre astuce auquel on pense pas beaucoup, mais au final, ça peut aider des oiseaux, c'est tout simplement d'éviter les collisions avec les vitres. Donc, ceux qui ont des baies vitrées, j'imagine que les auditeurs doivent dire « Ah mais oui, c'est vrai qu'on a vu un oiseau mort au bord de notre fenêtre. » Et bien en fait, il se cogne contre les baies vitrées.
Quand c'est des grandes vitres alors.
C'est ça, quand c'est des grandes vitres, ou même parfois quand on habite dans des maisons où il y a des grandes vitres. Voilà. Donc là, des petits stickers sont faits tout simplement sur les vitres, ça marche. L'oiseau comprend qu'il y a, y a un mur en fait, hein, et quand il arrive très vite, ça évite qu'il se cogne, qu'il tombe par terre. Et puis s'il est assommé sur une toute petite mésange, le trauma crânien, c'est la mort assurée, c'est fatal. Donc voilà, il y a des petits gestes comme ça, parce qu'on ne peut pas tous agir sur les pesticides.
Non, mais on pourra revenir après si on a le temps à la fin sur comment faire un jardin accueillant pour les oiseaux de toute façon. Le comptage de l'année dernière précisément, il y a eu des choses à signaler
Bon, il y a des choses à signaler, ma foi, il y a eu pas mal d'oiseaux. On est à peu près à 9 espèces dans les jardins. Alors ça, je vous donne même les chiffres dans le Finistère. On a fait un bilan départemental et dans le Finistère, on s'aperçoit qu'on a au moins 9 espèces présentes dans les jardins. Donc voilà, les personnes qui vont participer ce week-end pourront essayer de voir s'ils en ont plus ou moins 9. Mais en tout cas, la moyenne est à 9. Et on compte à peu près entre 27 et 28 oiseaux. Donc ça, c'est les chiffres du Finistère.
Donc dans une heure, c'est ce qu'on a compté, quoi.
C'est voilà. Ça, exactement. Bon. Et puis à l'échelle de la région, on n'a pas été surpris en tout cas de quels oiseaux sont plus ou moins fréquents ou plus ou moins abondants. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui comptent pour la première fois. Donc ça, on est content. On arrive à embarquer encore plus de monde avec nous. Donc c'est chouette.
Ouais, parce que 6000 personnes, ça fait pas mal. C'est peut-être plutôt quand même des gens qui sont en ville ou est-ce que vous arrivez à avoir des habitants des milieux ruraux de la campagne?
Ça, c'est vrai qu'on pose pas forcément la question. On se dit que c'est ouvert à tous. Alors, après, on sait que les villes qui comptent le plus, c'est les grandes villes comme Brest, comme Rennes, comme Vannes, comme Lorient. Donc c'est vrai que c'est des villes qui restent urbanisées. Après, à Brest, on peut avoir un jardin finalement presque en pleine nature. Qu'on n'a pas trop ces statistiques-là, c'est vrai qu'on ne le demande pas. Mais tout le monde peut compter.
Et si on n'a pas de jardin, on peut compter aussi?
Absolument.
Comment on fait?
Parc public, dans une cour d'école. Enfin bref, s'il y a un petit coin de nature, on évite le parking du supermarché parce que c'est pas très intéressant. Mais même sans jardin, le parc, dès qu'il y a de la nature, ça marche.
D'accord. Les espèces les plus courantes, alors quelles sont-elles, celles qu'on est pratiquement sûr de rencontrer dans son jardin?
Alors en plus on les connaît tous, le rouge-gorge, il n'est pas farouche, celui-ci on le reconnaît bien en plus. Les mésanges aussi, la mésange bleue, la mésange charbonnière, elles ont beau être petites, en règle générale on les voit.
On peut les distinguer facilement quand même, bleu charbonnière?
Oui, la mésange charbonnière a la tête noire, typiquement. C'est pas compliqué, c'est vraiment la caractéristique de la charbonnière par rapport à la mésange bleue, c'est sa tête noire. Je pense que je dis pas de bêtises, Lucas.
Tout à fait, c'est
bien.
La calotte noire.
On les reconnaît. Ceux qu'on va voir souvent aussi, c'est aussi ceux qu'on connaît en fait et qu'on a l'habitude de voir, les merles, les pinsons des arbres. Donc ça, c'est notre égérie du 2022, le pinson des arbres.
Ah oui.
Donc voilà, ça c'est une espèce qu'on voit assez souvent, qu'on peut confondre avec d'autres. Donc faudra bien regarder la couleur de son ventre, ses ailes aussi. Il y a des bandes noires et des bandes blanches qui sont qu'on reconnaît facilement sur le pinson. Donc voilà.
Et ne pas confondre le moineau et le...
L'accenteur mouchet. Absolument. Et là, normalement, tout le monde est capable de les reconnaître parce que le bec, il faut regarder le bec, le
pas
moineau,
le même. Ouais.
C'est rond et c'est tout petit. Et l'accenteur, c'est long et plat. Donc là, on est incollable entre le moineau et l'accenteur.
Et puis, je trouve que le dessin du moineau est plus joli. Enfin, c'est plus net, quoi. L'accenteur, ça fait un peu ébouriffer ses motifs de plume, je trouve.
Alors là, c'est très naturaliste.
Et là, justement, un naturaliste, nous en avons un avec nous, c'est Lucas Gauvin en service civique à la communication, mais bon, qui disait aimer toutes sortes d'animaux. Mais alors, pourquoi les oiseaux, notamment, qu'est-ce qui vous plaît chez les oiseaux particulièrement ?
Les oiseaux, c'est quand même des animaux qui sont quand même assez fascinants, et ça fait partie des espèces justement qui sont en quelque sorte les plus abordables. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas forcément sensibilisé à la nature de base va pouvoir avoir la chance, quelle que soit la période de l'année, d'observer du coup des oiseaux dans les arbres, dans son jardin, en bord de mer. Donc là, le sujet, c'est surtout les parcs, les jardins, etc. Mais ça fait partie justement des animaux qu'on va observer en fait le plus souvent au quotidien, et donc forcément de ça on découle des comportements intéressants, des choses à observer, et voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant.
Et oui, en bord de mer, ouais, c'est vrai, en fait c'est une bonne question ça. Dans la brochure, dans le recensement, est-ce qu'on recense aussi, si on habite en bord de mer, des goélands, sternes ou...
Non. Alors, ce n'est pas tout à fait l'objet du comptage. D'accord. Nous, on s'intéresse aux oiseaux des jardins, c'est des passereaux. Donc, c'est vrai que les oiseaux marins, bah, c'est des oiseaux marins. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on évite de compter les oiseaux qui volent au-dessus du jardin. On compte les oiseaux
Si le héron passe au-dessus, on ne va pas le compter, quoi.
Ouais. C'est des données qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que pour cette opération-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les passereaux des jardins.
Donc, usagers du jardin. Mmh.
Usagers du jardin, ou en tout cas ceux qui ont un peu, ceux qui viennent chez vous, pas pour aller grignoter vos poubelles, quoi.
Les corvidés, c'est considéré comme des passereaux, enfin ils font partie du...
Et
les pigeons aussi, ouais. Enfin...
Les corvidés, c'est considéré, donc on les voit souvent en tant qu'oiseaux des jardins. Après, ce ne sont pas des passereaux en tant que tels, mais donc ils vont être recensés. Donc on peut par exemple citer le chouca des tours, le jet des chênes ou encore la corneille noire, qu'on va retrouver quand même qu'on retrouve également beaucoup dans les jardins. Corvidés d'ailleurs, qui sont des oiseaux très intelligents, ça fait d'ailleurs partie des animaux justement les plus intelligents. On voit souvent donc des comportements, notamment au niveau des cris, par exemple le jet ou les corneilles, donc qui sont capables de reproduire des sons d'autres animaux, voire même des sons humains.
Ouais, ils peuvent parler un peu comme les perroquets, c'est ça ?
Tout à fait, ouais. Ouais.
Ils peuvent répéter des prénoms.
c'est
vrai, ils sont réputés très
intelligents. À leur environnement.
Ça va donner des idées aux gens qui n'aiment pas leurs voisins.
C'est ça. Alors qu'on a idée que, par exemple, les pigeons et les tourterelles, je ne sais pas comment on appelle cette classe d'oiseaux, on a idée qu'ils sont moins intelligents. On en comptera aussi, d'ailleurs.
C'est vrai, alors que pourtant, eux aussi ont un petit peu leur lot de surprises. Par exemple, quand on voit un pigeon comme ça, on peut se dire que ce n'est pas forcément un animal très intelligent, alors qu'il est armé de nombreux outils qui font de lui un animal assez intelligent, notamment, par exemple, pendant les migrations, les pigeons ramiers, qu'on appelle aussi les palombes, comme certains des autres oiseaux, en fait, ils ont vraiment plein de techniques pour se repérer. Donc, du coup, ils ont une mémoire assez forte. En fait, ils vont pouvoir se souvenir de certains éléments de paysage pour pouvoir se retrouver. Ils ont de la magnétite également présente dans leur bec qui leur permet de s'orienter, donc de comprendre où est le nord, tout ça. Et donc, faut aussi donc parler des déplacements grégaires, sociaux, du coup, entre les différents pigeons. Donc, par exemple, dans ces grandes migrations de palombes où ils vont être parfois des milliers d'individus, parce qu'il y a tout aussi un travail de coordination dans le vol, par exemple, à avoir. Et il n'y a pas tous les oiseaux qui peuvent faire ça. Il y en a qui sont beaucoup plus solitaires.
Les pigeons ramiers, c'est ceux qu'on utilisait pour envoyer des messages, avant d'inventer l'Internet, non ?
Alors,
probablement, ouais, les pigeons voyageurs.
Ils ont été utilisés. Il y a aussi eu donc le pigeon colombin et le pigeon biset féral, donc qui a été utilisé pour ça. Après, actuellement, je ne sais plus.
Les utilise moins maintenant. Si on fait des courses de pigeons, mais c'est un loisir, on va dire. C'est plus vraiment utilitaire, quoi. Dans les comportements, alors moi j'ai des questions là que j'ai recensées. J'ai remarqué donc le rouge-gorge. À chaque fois que j'arrive dans mon compost, quasiment, il s'en va. Donc, il mange du compost, le rouge-gorge, en gros, c'est ça ?
Alors, il ne va pas directement manger le compost. Mais ce qui est intéressant avec le rouge-gorge, d'ailleurs, comme Barbara disait tout à l'heure, on va pouvoir reconnaître certains oiseaux, notamment par leur bec. Et leur bec, en fait, va nous donner un indice sur leur régime alimentaire. Donc, par exemple, on parlait du moineau tout à l'heure, qui a un petit bec assez trapu, assez rond. En général, ça va être une caractéristique propre aux granivores, donc ceux qui vont se nourrir de graines. Et l'accenteur, comme on disait tout à l'heure, a un bec beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Ce qui est le cas également du moineau. En général, ce bec beaucoup plus fin, en fait,
rouge-gorge.
du rouge-gorge.
Du rouge-gorge familier, ouais. Pardon. En fait, il nous présente un régime insectivore, donc en fait, qui est composé d'insectes.
Les vers de terre de votre compost qui l'intéresse pas, ça. Le compost en tant que tel.
Exactement. Et c'est pour ça que souvent, on va le voir en train de remuer, d'aller fouiller un petit peu à l'intérieur et vraiment d'aller chercher. Et puis, c'est pas très grand un rouge-gorge, mais pourtant, ça peut remuer pas mal.
Ça déménage, ouais. Oui. Tout comme les merles, d'ailleurs. Ils déménagent beaucoup. Alors, moi, je faisais des lasagnes pour mon jardin. Alors, merci les merles. Ils flanquent tout par terre. Est-ce que c'est territorial, le merle ? J'ai l'impression que le merle chasse les autres oiseaux.
Alors oui, le merle, c'est un grand solitaire. C'est un oiseau qui est assez territorial. Mais en fait, comme la plupart des oiseaux territoriaux, il va être territorial essentiellement pendant la période de reproduction. Donc voilà, donc à partir de mars jusqu'à la fin de l'été, ça se poursuit un petit peu au début de l'automne. Et en fait, en dehors de cette période de reproduction, il va être beaucoup moins territorial. Même il va pouvoir partager un petit peu son territoire avec d'autres merles. Sachant que même en dehors de la période de reproduction, ça reste quand même un oiseau assez solitaire, contrairement par exemple aux grives, aux moineaux, ou même comme on parlait tout à l'heure avec les étourneaux, qui sont des oiseaux beaucoup plus grégaires, qu'on va pouvoir voir en groupe systématique. Ce n'est pas le cas du merle, qui va rester quand même relativement solitaire, en fait, qui va donc aller retrouver d'autres merles femelles, en général, seulement pour la reproduction, ou alors justement pour défendre son territoire.
Et si on voit un couple, en fait, dans son jardin, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de faire un nid, ou c'est un hasard, ou de merle, je veux dire ?
Alors justement, ça va dépendre de la période. Ça dépend. La plupart du temps, en fait, on va remarquer vite à leur comportement. Donc, si jamais le merle justement reste très près en fait de la femelle, va un petit peu repousser les autres espèces d'oiseaux ou en fait les autres merles tout simplement. La plupart du temps, oui. Hors de période de reproduction, quand on voit deux merles, un mâle et une femelle, cela dépend. Ça peut être un couple, un futur couple.
Et c'est quand la nidification, ça commence pas maintenant, enfin, fin janvier c'est trop tôt, c'est ça, il n'y a aucune espèce d'oiseau qui commence à faire son nid.
Fin janvier, pour les oiseaux des jardins, non, c'est trop tôt. Ça va commencer en fait, à partir de la période de mars en général. Ouais. Il y en a un peu plus précoce qui commence vraiment fin février, mais c'est quand même assez rare. Et donc voilà, ça dépend un petit peu des espèces, mais en général, ça se poursuit en fait jusqu'à la fin des beaux jours.
C'est pour ça qu'il y a un grand conseil à donner, ceux qui ont des haies, ne pas les tailler entre le 15 mars et la fin de l'été, la fin du mois de juillet, parce que justement, il y a les oiseaux qui l'utilisent pour nicher.
C'est interdit d'ailleurs de tailler sa haie.
C'est interdit, voilà. Certains ne le savent pas, donc là, ils ont l'information, donc maintenant, voilà. Mais c'est essentiellement pour ça, parce que les haies, etc. Enfin, les oiseaux ont besoin de tranquillité pour nicher, donc les haies, c'est le cas. Les nichoirs aussi, quand on les installe à la fin de l'hiver, et ben, hop, souvent les nichoirs à mésanges sont occupés de suite.
À la fin de l'hiver. Ah, est-ce qu'il faut nourrir les oiseaux du jardin ? C'est la grande question, je vais la reposer, parce que la réponse n'est pas si simple.
Ça, c'est toujours pareil, c'est en vrai. Pas vraiment. En vrai, les oiseaux, surtout dans nos contrées à nous, où ils ne gèlent pas, où le froid ne bloque pas tout l'accès à la nourriture, il n'y a pas un besoin nécessaire pour la survie des espèces de les nourrir. Après, ça reste un plaisir de les voir. Ça permet aussi de créer des liens en fait, avec ces espèces, de voir de la vie dans son jardin. Après, il faut faire attention de le faire correctement, parce que l'une des causes de mortalité des oiseaux des jardins, c'est... on a cité le chat, on a cité les collisions avec les vitrines, mais c'est aussi beaucoup de maladies liées aux mangeoires.
Les mangeoires sales.
Exactement, il y a ceux qui... Alors, quand on nourrit les oiseaux, il y a quelques règles simples à respecter. On ne le fait pas tout le temps, hein, on ne le fait que quand il fait froid. Donc en Bretagne, quand il fait froid, c'est vraiment mi-décembre jusque la fin du mois de février, mais pas avant. Quand on commence à le faire, c'est bien de le faire tout le temps, d'être régulier. Parce qu'ensuite, les oiseaux s'habituent et ils viennent voir chez vous et il n'y a rien. Enfin, voilà, c'est un peu gênant. Et puis surtout, on nettoie ces mangeoires. On ne laisse pas le gros tas de graines qui est en train de pourrir sur la mangeoire ou au sol. On nettoie, il y a vraiment des maladies. Et une année, on a observé une grande mortalité du verdier, justement parce qu'il était malade avec une bactérie qui était présente sur les mangeoires. Donc voilà, ceux qui les nourrissent, ils peuvent le faire. Respecter le temps de... quand il n'y a plus besoin de les nourrir, quand les beaux jours reviennent, on arrête. On donne des graines variées, donc on ne donne pas les restes de pain et le reste du petit-déj, hein, ça on évite, les oiseaux ça ne mange pas des croissants, ils n'ont pas de boulangerie, les oiseaux.
Pas de pain, ouais. C'est trop salé en fait.
C'est trop salé, exactement, on leur donne des graines variées, des graines de tournesol, du maïs, de l'avoine, etc. Mais pas de pain, pas de croissants, et puis on nettoie, c'est mon choix. Voilà, ça c'est vraiment des règles élémentaires.
D'accord. Sur les comportements, donc il y a les oiseaux solitaires, il y a les oiseaux grégaires. Donc des moineaux, on les verra toujours en bande, c'est ça ? Enfin, au moins deux ou trois, non ?
Oui, toujours en bande quasiment. Ça, c'est un instinct en fait chez certaines espèces qui est devenu un petit peu indissociable des espèces, parce que par exemple, que ce soit voilà, les moineaux, les étourneaux, c'est pour à la base échapper plus facilement aux prédateurs. En fait, quand on va avoir un groupe d'oiseaux qui va être en vol, donc de plusieurs individus, et qu'il va y avoir par exemple voilà, un épervier, donc un rapace qui est très friand de nos oiseaux du jardin.
Parce que les oiseaux tuent des oiseaux, il ne faut pas le
oui, il y a pas que les chats. Faut pas l'oublier, c'est sûr. Forcément, il aura beaucoup plus de mal en fait, à attaquer donc un individu si jamais un groupe d'individus justement arrive un petit peu à le perturber. Donc c'est le cas par exemple des étourneaux, on voit avec des grandes nuées en fait qui vont se déplacer d'une façon synchronisée qui
brillante,
totalement impressionnante.
On appelle ça des murmurations, c'est très joli comme
mot. Ah oui,
non, les grands balais des étourneaux, c'est des murmurations.
Ouais, c'est impressionnant, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est très impressionnant. Et donc on notera aussi qu'au niveau du comportement donc de ces oiseaux qui sont plus grégaires, donc ça va forcément donc développer des comportements plus sociaux, et en général donc on va avoir aussi certains traits d'intelligence qui vont être remarqués chez la plupart de ces oiseaux-là, comme les tourneaux, encore une fois je reviens dessus, mais qui est un oiseau également très intelligent, qui d'ailleurs comme les corvidés peut imiter également le bruit d'autres animaux, d'humains, et même des bruits d'origine humaine comme des claquements de porte ou encore des sonneries de téléphone par exemple.
Ah, dommage qu'on n'ait pas d'échantillon sonore à vous faire entendre là. On va se mettre en quête pour l'année prochaine. Et les mésanges par exemple, c'est social plutôt comme oiseau, parce qu'on a l'impression d'en voir plusieurs.
Alors c'est relativement social, ce n'est pas grégaire, par contre ça ne va pas se déplacer en groupe systématique. Par contre, comme de nombreux oiseaux en fait en période de reproduction, elle va devenir quand même assez territoriale. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la raison principale, comme l'a dit Barbara tout à l'heure, de ne pas nourrir ces oiseaux quand il fait chaud, c'est donc la prolifération des bactéries et des maladies, bien sûr. Mais même si vous gardez vos mangeoires propres, en fait, le danger qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, il va y avoir un phénomène de concurrence qui va être assez énorme en fait à cette période, et des oiseaux qui en temps normal ne sont pas si territoriaux que ça en fait vont vraiment le devenir. Donc voilà,
oui, ils vont faire la guerre autour de la mangeoire, quoi.
Exactement, pugilat à la mangeoire,
comme au buffet au restaurant, chacun son assiette, voilà.
Exactement, les dangers du buffet à volonté.
Et est-ce qu'il y a des oiseaux qui vivent en couple toute l'année?
Donc là c'est pas forcément un oiseau de nos jardins, mais je pense par exemple aux inséparables, d'où leur nom. Mais bien sûr, alors c'est pas le cas de tous, mais on a des oiseaux qui vont rester ensemble toute leur vie. En fait, ça dépend de leur stratégie de reproduction essentiellement. Par exemple, la mésange, on en parlait tout à l'heure, elle va donc changer, donc la mésange femelle va changer de partenaire relativement souvent dans l'année. En fait, il va y avoir donc souvent une femelle extérieure au couple qui va arriver, donc qui va faire concurrence, qui va prendre la place de l'ancienne femelle, et l'ancienne femelle du coup va aller retrouver un nouveau mâle. C'est parce qu'elles ont besoin de se reproduire énormément, parce que c'est des oiseaux qui, même si elles se portent très bien, on le voit d'ailleurs avec les résultats des opérations des années précédentes, c'est quand même un oiseau en fait qui a énormément de prédateurs en fait, et donc qui peut facilement avoir des baisses d'effectifs, mais grâce à sa technique de reproduction, ce n'est pas le cas.
Elle est bien adaptée quand même, quoi.
Ouais. Tout à fait.
D'ailleurs, comment on fait alors techniquement quand on voit un coup trois mésanges dans l'heure où on compte ces oiseaux, un coup deux mésanges, qu'est-ce qu'on compte en fait au final? Parce qu'en plus ça peut être la même qui revient. Enfin.
Alors pour pas compter deux fois le même oiseau, c'est tout simple. Il va juste s'agir de noter le nombre maximal d'oiseaux observés en même temps. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut juste dire qu'il faut pas faire des additions. Si on voit quatre mésanges, deux mésanges et trois mésanges, on fait pas une addition, on met le nombre d'individus maximal vus en même temps, à savoir quatre mésanges.
D'accord.
Voilà, comme ça évite de compter deux fois les mêmes.
Mais ceci dit, je crois que les mésanges, en plus, ce n'est pas du tout les mêmes, en fait, qu'il y en a énormément. C'est ça, sur, dans un jardin, il peut y avoir 20 mésanges qui passent à l'heure, c'est ça, non? En vrai.
Alors après, c'est compliqué à dire parce qu'il faudrait les suivre avec des bagues, etc. Mais c'est effectivement, ce n'est pas des oiseaux qui ont un arbre de prédilection, ça se déplace. Hein. Mais oui, on peut.
Et justement, arbres, arbustes, quels seront les oiseaux qu'on verra plutôt dans les arbres, ou plutôt au sol, ou plutôt en haie?
Alors, donc pour les observer, notamment en hiver, justement, quand on n'a pas beaucoup de feuilles, c'est pratique. La plupart du temps, ça sera bien sûr sur les arbres, les buissons, en fait, sur les branches en général.
Et c'est les mêmes qui vont dans les arbres ou dans les buissons?
Ouais. C'est ça. En tout cas, par exemple, ça va dépendre aussi de deux choses. Donc, soit ça va être donc pour se nourrir. Donc, par exemple, il y a des oiseaux donc, plus granivores qui vont aller se nourrir au sol, qui vont donc aller chercher les graines, ou même, par exemple, des insectivores qui vont également être au sol pour aller chercher les petits vers. terre ou dans le compost, par exemple. D'autres donc, qui vont être plutôt dans les arbres, comme donc, les oiseaux frugivores qui vont donc, voilà, aller manger les petites cerises du jardin.
Mais là, il n'y a pas de cerises, alors qu'est-ce qu'ils mangent en ce moment?
Alors en ce moment, du coup...
Les baies, souvent, il y a des petites baies.
Les baies sauvages,
ouais.
Tout à fait.
D'accord.
Dans les buissons, ouais. Les griffes, souvent, les pinsons, notre égérie, bah, souvent aussi, on le voit grignoter des petits...
Et les oiseaux qu'on voit quand, par exemple, les pommiers sont en fleurs, qu'est-ce qu'ils mangent? En fait, ils mangent des insectes ou ils mangent des bourgeons? Enfin, ils peuvent manger des bourgeons, les oiseaux?
Alors, les bourgeons, je ne sais pas, mais après, il y a des passereaux qui se nourrissent de nectar, des fois, en certaines périodes, donc c'est possible. Après, donc, tout à fait, en fait, sur un pommier, c'est intéressant parce qu'on peut retrouver à la fois, du coup, des espèces qui vont être granivores, en fait, qui vont aller manger, du coup, les graines, des espèces frugivores et des espèces donc, insectivores, donc qui vont aller manger les insectes, par exemple, dans des pommes pourries ou même dans l'arbre, tout simplement. Ou même, par exemple, voilà, les piques qui vont aller chercher à l'intérieur du bois, du coup, voilà, des larves d'insectes. D'ailleurs, les piques, comme les corvidés, qui peuvent s'attaquer au nid des autres oiseaux et donc qui peuvent aller, pas forcément manger leur progéniture, mais plutôt les œufs. Ils sont très friands des œufs des autres oiseaux. Et donc les piques, eux, par exemple typique des oiseaux qu'on va retrouver essentiellement dans les arbres, mais également au sol. On peut voir des pies verts, des piques épêches qui vont aller donc... chercher un petit peu les invertébrés qui sont à l'intérieur.
Tapote, souvent, c'est impressionnant de les voir. Ouais. Les goélands font ça en ville aussi. On les voit tapoter le sol en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il
fait sortir les vers.
C'est ça, exactement.
Avec des vibrations.
Okay. Ouais.
Super. C'est impressionnant.
Bon, et ben vous remercie une fois de plus parce que c'est toujours super intéressant ces émissions. Je rappelle donc le comptage des oiseaux des jardins les 29 et 30, donc samedi et dimanche prochain. Et on va sur le site de Bretagne Vivante pour avoir tous les outils pour se faire aider.
Absolument.
Et pour recenser ces oiseaux. La prochaine fois qu'on entendra Bretagne Vivante dans l'Aisne, eh bien ce sera le 24 février en compagnie de Stéphane Visa et ses amis les crapauds épineux. Merci. Dans un instant, la deuxième partie de l'EM avec Marie Cultive et les bestioles du